Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit en 2016 ? C'était à la fin de l'année, c'était l'année dernière, au mois de septembre, je crois. J'étais parti en mer, en bateau, et j'étais content. Avec ma canne à pêche, toujours avec mes asticots, mon hameçon, et évidemment, ne jamais pêcher. Mais en fait, tant pis, j'ai toujours essayé. Ok ? Oui, mais je ne pêche pas de sardines, mais quand même, j'en suis à ma 10e baleine que je croise. Alors, merci Seigneur, je ramasse pas. Oui, dans les Antilles, c'est pas au large de Marseille quand même. Mais enfin, alors, je suis parti en mer, et puis j'avais besoin de me reposer, de me retrouver seul. Et puis, évidemment, j'ai choisi une calanque, je ne vous dis surtout pas laquelle, parce que c'est enregistré, ma calanque préférée. Et puis, loin de tout, j'ai jeté l'ancre, la mer était calme, le ciel était magnifique, la lune s'est levée, et ça y est, j'allais passer une nuit merveilleuse dans le calme. Et puis, Pascal me téléphone et me dit, écoute, je viens d'apprendre une nouvelle à la télévision, la marine française va faire ses manœuvres dans l'une des calanques de Marseille. Mais vous savez, il y a beaucoup de calanques, il y a une quinzaine, peut-être une vingtaine de calanques. C'était au mois d'août. Une quinzaine, une vingtaine de calanques. Alors, je me suis dit quand même, Seigneur, ils ne vont pas choisir ma calanque. Et sur toutes les calanques qu'il y a, ils ne vont pas choisir ma parole.
Et quelle calanque ils ont choisi ?
Toute la marine est arrivée, porte-avions, avions, hélicoptères, dans la nuit. Et moi qui voulais le calme, le repos, la tranquillité, j'avais même coupé la radio, je ne savais rien, seul, sur la mer, gloire à Dieu. Je me suis trouvé au milieu d'une bataille navale. Non mais, ne riez pas. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et comme j'étais le seul bateau, eh bien, ils m'ont utilisé comme cible pendant la nuit. Non, mais il faudrait même l'inventer, c'est impossible. Et alors, avec leurs immenses spots, les hélicoptères... Non, ne riez pas, mais c'était tragique. J'ai dit, Seigneur, il y a déjà eu un sous-marin, il y a eu déjà un requin, il manquait plus que la bataille navale. Non mais, écoutez, si vous connaissez un prophète qui raconte des histoires comme ça, je ne le croirais pas, c'est pas possible. Et là j'ai dit, mais attends Seigneur, non, mais c'est le délire. Tout était si harmonieux, tout était si calme, j'étais dans ta présence. Et alors, je le vois avec les hélicoptères. Alors, ils ont dû se dire, ben, ce gars-là, on va l'utiliser. Tiens, ça fait une bonne cible, tout le monde le voit. C'est l'ennemi avisé numéro un. Et j'avais ces énormes spots. Les hélicoptères passaient, puis il y avait notre avion qui arrivait avec son comment ça s'appelle, un spot, oui. Avec son phare, avec son je sais pas quoi. Et puis, ils essayaient, quoi. Alors, j'étais toute la nuit dans la lumière. Non mais écoutez, je vous assure, c'était, moi j'étais pas rassuré, hein. J'ai pas mis mes dés dehors. Alors mon bateau qui s'appelle Lys de la Vallée, mon bateau qui annonce les noces de l'agneau, de quoi avais-je l'air ? Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore ? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ? Et le Seigneur m'a dit quelque chose d'effrayant. Il m'a dit, mais mon fils, combien même tu te cacherais, combien même la voix prophétique se cacherait, je la contraindrais d'être entendue. C'est fou, hein ? Le monde fera la guerre à mes prophètes, mais nul mais tous verront qu'ils reflèteront ma lumière. Tous verront ma lumière. Ils pourront faire la guerre, ils pourront combattre, ils pourront faire tout. La lumière, je vais libérer la voix, la lumière de mes prophètes. Oh. Alors cette histoire paraît très drôle, mais elle est... Et vous voyez, en vivant cette expérience-là, j'ai compris qu'on entrait dans un temps prophétique qui n'allait plus être le temps où seulement les prophètes parlent à l'Église, mais un temps où les prophètes vont commencer à parler aux nations. Un temps où les prophètes, la lumière de Christ, et ce n'est pas seulement les prophètes, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est prophétique. Et si elle brille, eh bien les nations le verront. Alors ça provoquera du remous, des combats, et ça sera le combat spirituel. Mais c'est comme si le Seigneur, en faisant vivre cette expérience absolument extraordinaire, le Seigneur était en train de me dire, vois-tu, eh ben c'est le temps où je ne lève pas ce monde de mon Église. C'est la voix prophétique qui va être entendue. Et je mettrai une lumière. Dieu, le Seigneur va nous mettre dans une telle lumière au milieu de la nuit qu'on nous verra, que personne ne pourra faire taire la voix prophétique. Et si on doit parler de 2016, c'est cette expérience-là que je voudrais partager avec vous. C'était avant le septembre, c'était avant la fête des trompettes, avant le nouvel an. Et ça m'a énormément frappé. Déjà, l'année d'avant, c'était pas piqué des vers. Hein. Je me baignais dans une mer azur, dans le Pacifique. J'étais tranquille. Voilà, tipa qu'un requin m'a vu. Je crois avoir raconté l'histoire. À qui ne la connaît pas, cette effrayante histoire? Oh non, monsieur, il faut que je revienne à chaque fois, quand même. J'étais là sur l'île de Moorea et il y avait des petits requins. Alors c'était le jeu touristique de se baigner avec les requins qui arrivaient comme ça à un endroit précis, peut-être qu'on leur a donné à manger. Et puis moi il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai horreur des requins. Je déteste les moustiques, mais alors les requins, ne m'en parlez pas. Hein. Et très souvent, j'ai peur des requins. Et mes amis m'ont fait une petite blague. On est allé nager dans cet endroit, il y a des requins qui arrivent, qui passent, qui font... Ce sont des petits requins de récif. Puis bon, ben, je n'ai pas trouvé que c'était très amusant, pour tout vous dire. Mais après, je me suis éloigné. Et puis, j'avais pas de scaphandre, j'avais rien, j'avais juste mon masque. J'ai plongé en apnée. Et là, j'ai vu un requin. Et surtout, c'est pas que je l'ai vu, mais c'est que lui m'a vu. Et vous savez, quand tu as peur, quand tu paniques, quand tu retiens ta respiration, tu ne peux plus la retenir. Tu étouffes et tu es noyé. Tu peux pas retenir. La panique fait que tu ne peux plus retenir ta respiration. Et quand je l'ai vu, eh bien, croyez-moi, à cet instant-là, j'étais déjà devant le trône de Dieu. Il y a des moments dans la vie où tu ne te demandes pas à quelle heure est la réunion de prière. Tu es déjà dans la présence du Seigneur. Et plus le requin approchait, ça s'est passé en quelques secondes, parce qu'il fallait quand même que je retienne, plus la prière était intense. Et le requin s'est approché. Et croyez-moi, le nom de Jésus, glou 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 glou, je l'ai prononcé. Proclamé au nom de Jésus, je suis couvert par le sang de l'agneau. Ça, tu l'oublies pas quand tu es en face d'un requin. Et tu vois, il s'est approché de moi. Et puis, il est parti. Mais vous voyez, je vois encore, je ne vais pas dire yeux dans les yeux, mais à ce moment-là, j'ai fait une expérience absolument extraordinaire. Donc, je vous parle, c'était en 2014, cette expérience-là. J'ai fait une expérience de la paix de Jésus qui m'a envahi. Oh, la présence de Dieu m'a envahi. Mais j'étais, je ne dirais pas que j'irais jusqu'à embrasser le requin, mais j'étais dans une dans une joie intérieure extraordinaire. Il y avait une onction sous l'eau, t'imagines. Il y avait l'onction qui était là. Merci Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai vécu cette expérience-là? Et Seigneur m'a dit, parce que les loups sont à la porte. Les requins, ce sont les loups des mers. Les loups sont à la porte. Et Dieu, par là, m'a fait expérimenter qu'on n'a pas à avoir peur de ceux qui déchirent. On a à rester dans la paix de Dieu, la présence de Dieu. Et c'était une grande leçon, parce que j'ai beaucoup parlé de cette expérience qui m'a beaucoup marqué. C'est le temps où les loups vont venir. Mais le loup ne peut rien faire s'il sent l'autorité de Dieu, la présence de Dieu en toi. Et cette autorité, cette présence de Dieu en toi, elle est le fruit de ta persévérance, de ta communion, de ta sanctification avec Jésus. Tu vois, elle est le fruit, je dirais, elle est l'action du Saint-Esprit en toi. Hein? La paix intérieure, eh bien, elle vient quand tu demeures en lui, en Jésus. La paix intérieure, elle vient quand tu marches sur un chemin d'obéissance à ses commandements. Amen. Et l'année d'après, c'était donc l'année dernière, 2015, c'était ça. Je vais lever la voix des prophètes. Amen. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a toute une armada autour de toi. La question, c'est que même si tu veux te cacher, eh bien, tu es sa lumière. Et c'est le temps où Dieu va commencer en France à lever la voix prophétique pour l'exposer en quelque sorte. Et on l'entendra parce que la lumière vient. C'est le temps des miracles. 2016, c'est le jubilé de Jérusalem qui commence avec de la libération de Jérusalem avec les 49 ans. 2016, c'est 2 x 8, c'est le chiffre 2 fois la résurrection. C'est 6 plus 1, 7 aussi. On peut voir à travers le chiffre aussi une symbolique prophétique. Mais ce qui est je voudrais que vous entendiez ce qui est écrit dans Osée 6, 1. Moi, Osée me parle énormément. Et parce qu'il va falloir oser maintenant. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Amen. Il vient. Même si nous passons cette année, nous allons passer 7 années de sécheresse où des nations vont commencer à réaliser que l'eau est une denrée qui va être rare. 7 années de sécheresse. Mais au milieu de ces 7 années de sécheresse, Dieu va faire de toi une source de vie. Et d'ailleurs, il y a une sœur, je ne sais plus si elle est là, je ne sais plus qui, m'a dit... Au niveau de l'article, la sécheresse, des nations vont être saisies par la sécheresse. Et quand il y aura des pluies par endroit, eh bien, ça dévastera tout. Et vous voyez, nous sommes à une époque où Dieu, la terre n'en peut plus. La terre croule sous la souillure de l'homme. La terre s'écroule. Et la terre, elle attend la révélation des enfants de Dieu. Romains 8. Et cette sécheresse, c'est l'image de la sécheresse du cœur de l'homme. Et Dieu fait venir cette sécheresse pendant 7 ans pour que l'homme puisse crier sa soif à Dieu. Pas seulement sa soif de l'eau, mais sa soif de lui. Et il y a dans ces 7 années qui commencent, qui inaugurent le 21e siècle, ça commence par cette année de sécheresse. Mais dans ces 7 années de sécheresse, Dieu va en quelque sorte faire jaillir les sources de vie. là où des enfants de Dieu se tiendront dans l'adoration, là où les portes du royaume auront été ouvertes, là où les autels auront été dressés, là où l'alliance du sang de Jésus aura été proclamée. Alors ce sont des sources de vie qui viendront. Et au lieu de la pauvreté, ce sera l'abondance. Donc nous n'avons pas à craindre cette sécheresse, parce qu'elle ne nous concerne pas, sauf une chose. Elle nous appelle à être des témoins. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Vous voyez, ça c'est important de comprendre cela. Et vous voyez, nous sommes dans ce temps où on va être comme projeté en avant. Et l'année 2016, c'est l'année de quoi ? L'année de l'onction de Jean. L'Église de France est née à la venue d'Irène de Lyon. L'Église de France, elle a un héritage qui vient de Jean de Patmos. Et l'onction de Jean, c'est quoi ? Pourquoi 2016, c'est l'année de l'onction de Jean ? Parce que 2016, c'est... Qu'est-ce que l'onction de Jean ? Qu'est-ce que c'est que l'onction de Jean ? L'onction de Jean, c'est quoi ? C'est le témoignage du cœur du Père. Mais Jean, c'est plus que cela. Ce n'est pas seulement l'apôtre de l'amour, l'apôtre qui révèle l'agapé du Père. C'est plus que ça. Jean était le disciple le plus proche de Jésus, celui qui posait sa tête contre la poitrine de Jésus. Mais Jean, c'est celui qui révèle l'Apocalypse. Et souvent, on voit l'Apocalypse comme une sorte de bataille finale qui amène la révélation de Jésus-Christ et de son épouse. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Mais ce que l'on oublie, c'est que Jean, dans les événements de l'Apocalypse, Jean transmet un message d'espérance extraordinaire pour les Naziréens, les Nazaréens, c'est-à-dire pour les chrétiens, pour ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui ont reconnu le Seigneur. Cette fois, dans Apocalypse 2 et 3, à la fin de chaque église à laquelle Jésus s'adresse, cette fois, Jésus va dire au vainqueur, ta-ta-ta, au vainqueur, ta-ta-ta, au vainqueur. Et au dernier, à l'église de Laodicée, au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu. C'est-à-dire que la dernière promesse, celle de l'église de Laodicée, c'est une promesse qui nous appelle dans notre vocation, c'est de régner avec Jésus. Amen. Et ça, c'est important de comprendre cela. Et à partir de là, cette lettre, cette église, c'est comme si Jean, et c'est pas comme si, Jean a reçu la révélation que les sept églises sont en rapport, sept églises ont sept caractéristiques qui sont en rapport avec Ésaïe 11, les sept esprits de Dieu, qui sont représentés par le chandelier à cette branche, ok ? Qui est le témoignage de la lumière, de la présence de Dieu dans sa maison, ok ? Et ce qui est intéressant, c'est que Jean commence par ça, celui qui tient les sept chandeliers. C'est celui qui tient. Et c'est lui qui est la lumière. Et cette lumière, il a transmise à son épouse. Et il l'a transmise, mais il y a une victoire à gagner. Il y a une bataille. Et notre vocation, c'est d'être vainqueur. Donc je ne reprends pas la lettre aux sept églises et les sept caractéristiques. Mais ce qui est important, c'est que la septième, c'est de régner. Et à partir de la fin de Apocalypse 3, Jean va nous introduire, hein, il part de victoire et en fait, il nous introduit dès le chapitre 4 dans une immense bataille qui est la bataille de l'histoire de l'Église qui va aboutir au retour de Jésus-Christ qui va aboutir au retour de Jésus-Christ. Oui, mais à travers cette bataille à travers cette... On ne sait plus très bien si on est au ciel ou si on est sur la terre. On fait constamment, dans l'Apocalypse, un aller-retour. Mais ce que l'on voit, il y a toujours une trame qui se poursuit jusque dans les 21 chapitres, sauf le chapitre 22. Il y a juste une trame constante, je dirais même particulièrement jusqu'à Apocalypse 19, où Jésus revient avec une grande armée sur la terre. Et dans cette trame, on voit les élus. Ils ne sont pas encore tous, Apocalypse 7, ils ne sont pas encore tous devant le trône. Il y a ceux qui sont égorgés, qui doivent encore attendre sous le trône. Ok ? Et puis dans Apocalypse 14, waouh, tout le monde est là. Tout le monde est au rendez-vous. Alors, on proclame la célébration des noces. C'est fou, hein ? Et c'est intéressant parce que cette fois, il est dit à celui qui vaincra, et on arrive à Apocalypse 14. Amen. Et c'est ça que nous devons entendre à partir de 2016. Nous avons à devenir des vainqueurs. C'est cela la leçon. Et Jean, qu'est-ce que c'est l'onction de Jean? Parce que le manteau de Jean flotte sur l'église de notre pays aujourd'hui. Le manteau de Jean qui nous fait entrer dans l'adoration, le manteau de Jean qui nous révèle le cœur du Père, c'est aussi le manteau qui nous conduit au cœur de l'épouse. Et nous devons comprendre que c'est cela, c'est l'onction de Jean, et c'est pour ça que Martin de Tours, deux siècles après Irénée de Lyon, qui lui était fils spirituel de Jean, de Polycarpe et de Jean, exactement. Polycarpe était le fils spirituel de Jean. Eh bien, Martin de Tours, il a voulu s'installer en Gaule. On est vers l'an 350, par là, ou 360, du temps de l'Empire Constantinien, parce que Constantin était encore en vie, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est que Martin a saisi, à travers l'église de la Gaule, qu'il avait sa place dans ce pays. Martin était le fils d'un général romain. Donc il a dû attendre la fin de son service militaire, qui était obligatoire en tant que fils de général. Et il s'est installé en Gaule. Il a été forcé de devenir évêque de Tours, etc. Laissons son histoire de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui a parlé. Et Dieu va parler aussi à ses successeurs. Et qu'est-ce que Dieu va dire? C'est que la Gaule deviendra une nation. Et que l'Église a cette responsabilité, à travers le manteau de Jean, en quelque sorte, de poser cette nation dans la vocation et te libérer le témoignage de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on connaît l'histoire de France, on sait qu'elle a quitté ses racines, elle a tout abandonné aujourd'hui. Elle s'est prostituée dans l'humanisme, tout cela nous le savons. Elle n'a pas fait mieux que les 10 tribus perdues de la maison d'Israël. Mais Dieu reste fidèle. Et Dieu dit à son épouse, Dieu dit à l'Église de France, reçois ce manteau, reçois-le, sois un adorateur, sanctifie-toi. Parce que aujourd'hui, cette année, Dieu commence une œuvre dans l'Église de France, et bien plus que l'Église de France, dans les églises de la francophonie. Et là, voyez, le 10 mai, toute une délégation d'intercesseurs vont quitter la Polynésie française parce qu'ils doivent rejoindre les trois points du grand triangle polynésien dans le Pacifique, qui représente la partie la plus éloignée du monde par rapport à Jérusalem. J'en ai beaucoup parlé. Et ils vont rejoindre leurs frères polynésiens de Nouvelle-Zélande. Ils sont allés à l'île de Pâques. Ils ont commencé par l'île de Pâques. Ils partent le 10 mai en Nouvelle-Zélande. Et après la Nouvelle-Zélande, après avoir rencontré les Maoris, l'église Maori, ils vont expliquer, dans la perspective de ce que Martin a dit, Il viendra des temps quand l'évangile sera répandu, quand cette nation, parce qu'à son époque, il ne connaissait pas la France, c'était la Gaule. Quand la nation qui naîtra de la Gaule ira jusqu'aux extrémités de la terre, alors, c'est alors que ce sera le temps du retour à Jérusalem. Et le Messie sera là. Et le lion de Juda viendra. Donc, l'onction de Jean a la vocation de lever l'épouse. Pas la vocation de lever. C'est toute l'Église de la terre qui a la vocation. L'épouse doit être prête. Mais l'onction de Jean a la vocation de révéler prophétiquement l'épouse de la fin des temps. L'onction de Jean a la vocation, d'ouvrir une voie pour l'épouse de la fin des temps. Elle ne sera pas la seule. Elle a la vocation d'annoncer le lion du Juda qui vient pour les nations. Elle a la vocation d'inviter les nations, la multitude des nations, à revenir à Jésus-Christ pour les temps qui viennent. Amen. Et alors, il y a une démarche à faire vers Jérusalem. On vit des temps qui sont extrêmement importants. On vit des temps qui sont extrêmement précieux. C'est pour ça qu'on voit toujours chez Jean l'apôtre du cœur du Père. C'est une erreur. C'est l'apôtre de la guerre spirituelle. C'est une erreur. C'est parce que tu es dans le cœur du Père que tu deviens un guerrier en Christ. Ça paraît contradictoire. C'est la même chose. C'est au travers du cœur du Père que l'épouse de la fin des temps va devenir cette fois vainqueur. Si il faut que nous devenions vainqueurs pour régner avec Christ, ça veut dire qu'il y a une coupe de victoire à acquérir. Ça veut dire que dans le combat, au milieu de la résistance, au milieu de la résistance des ténèbres, tu es appelé à prier, mais tu es appelé aussi à devenir un guerrier de la prière. Alléluia. Et si l'épouse se lève avec le cœur de Jésus en elle, c'est une épouse qui se lève au milieu du combat et elle est condamnée à être vainqueur du combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean n'est pas seulement celui qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean est celui qui nous introduit dans la grande bataille de l'Apocalypse. Pourquoi ? Pour garder le fil conducteur, qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui se lève de la multitude des nations et qui est aussi appelée à revenir comme Éphraïm est revenu. Comme Éphraïm, la maison d'Éphraïm, avec toutes les tribus qui ont disparu 750 ans avant la venue de Jésus. C'est elle. C'est elle qui fera un seul corps avec la maison de Juda à la fin des temps. Amen. Et nous devons comprendre que l'année 2016, c'est une année qui nous lève, je dirais, c'est l'année de la conscience de Dieu par excellence. C'est une année où Dieu t'appelle à sonder ton cœur pour comprendre que tu as Dieu veut mettre sa passion en lui. Dieu veut mettre sa passion en lui. Sonde ton cœur et approche-toi du cœur de Jésus. Si l'onction de Jean, tu ne vas pas la saisir comme cela. Tu vas la saisir à travers la passion de Dieu. Et la passion de Dieu, tu vas la saisir dans l'adoration. Amen. Tu es un adorateur. Et une onction va venir. Vous voyez, Pâques, Pentecôte approche. Nous sommes dans cette... Moi, j'aime beaucoup venir dans cette période. Nous sommes dans la période la plus prophétique de l'année. Toujours entre Pâques et Pentecôte, c'est la période dans le monde entier la plus prophétique de l'année. Pourquoi ? Parce que Pentecôte, c'est le nouvel an de l'Église. Hein ? Le 1er janvier, c'est le nouvel an des nations. Le 15 septembre dernier, c'était le nouvel an civil d'Israël, ok ? Le nouvel an religieux, comment on appelle ça ? Mais ça, c'est une autre question. Mais c'est un nouvel an. Et nous, hein, on a vu le nouvel an d'Israël le 15 septembre. On a vu, 3 mois après, le nouvel an des nations. Et 6 mois après, c'est Pentecôte. Donc on est dans ce passage entre Pâques et Pentecôte. Ce passage, ce voyage qui va durer 50 jours. Ce voyage où Jésus apparaît ressuscité. Eh bien aujourd'hui, Jésus, nous savons qu'il est ressuscité. Il ne nous apparaît plus ressuscité, mais il se révèle à nous comme celui qui vient bientôt. Et c'est un temps extrêmement fort parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Pentecôte de l'année dernière, n'est-ce pas ? C'était fabuleux. Waouh ! Pour terminer le XXe siècle, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a rabaissé le plus haut sommet du monde de 3 mètres, le mont Everest. À Pentecôte, paf, le mont Everest, on a pris un coup, paf. Et le mont Everest représente l'orgueil de l'homme. Et Dieu l'a rabaissé, pourquoi ? Parce qu'il a voulu annoncer à Pentecôte, c'est-à-dire dans le nouvel an de l'Église, qu'il y avait une autre montagne qu'il allait lever. C'est la montagne de Sion. Pourquoi il a pas abaissé n'importe quel... C'est à Pentecôte. Parce que Pentecôte, c'est toujours une affaire de montagne. C'est à Shavuot, c'est à Pentecôte que Moïse est descendu du mont Sinaï pour donner les tables de la loi. C'est la fête. C'est une fête, Pentecôte. C'est la fête de la moisson. Et Pentecôte, c'est aussi le don du Saint-Esprit, nous le savons cela. Donc Pentecôte, c'est toujours une guerre d'autel. Pentecôte, c'est toujours une guerre. Les montagnes représentent dans la Bible les ennemis. Mais les montagnes représentent aussi des lieux élevés où se tiennent des principautés. Mais c'est aussi sur la montagne de la transfiguration. La montagne est un lieu où on touche le ciel quelque part, vous voyez ? Mais quel ciel ? Le ciel de ténèbres ou le ciel du trône de Dieu ? La montagne de la transfiguration était un signe de quoi ? C'était en rapport avec la montagne de Sion. Relisez Hébreux chapitre 12. Et ça, c'est important de comprendre cela. C'est pourquoi à Pentecôte, Dieu a rabaissé le mont Everest et il a averti son Église, seule l'Église. C'est un message qu'il a donné à l'Église. Il a ébranlé les fondations du Népal. Le Népal, waouh, c'est là où il y a tant de principautés, n'est-ce pas ? Hein ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est en train de dire, voilà, Église, à partir de Pentecôte 2015, la montagne de Sion, la multitude des nations va s'approcher de la montagne de Sion. C'est l'annonce de la moisson qui vient à travers la venue du 21e siècle. Le 21e siècle n'a pas commencé en l'an 2000, il a commencé le 15 septembre de l'année 2015, au moment de la fête des trompettes. Et c'est extrêmement important de comprendre cela. Parce que l'année 2016, c'est vraiment une première année de 7 ans, une année qui annonce le glas de la sécheresse pour les nations. Mais pour l'Église, c'est une annonce où tu vas être flashé. C'est une annonce où le 21e siècle, et c'est le siècle de la guerre des autels. Mais c'est le siècle où tu vas être en vue. Amen. Nous voulons tous être prophétiques, n'est-ce pas ? Nous voulons tous annoncer le retour de Jésus. Mais nous allons l'annoncer avec l'onction de Jean. Mais ce qui est au cœur même de l'onction de Jean, pour pour que l'onction de Jean puisse annoncer l'épouse qui se lève, il faut que l'onction de Jean se réaligne. Il faut que la multitude des nations, c'est-à-dire que l'Église qui est issue des nations, est appelée à représenter la multitude des nations, à devenir une multitude de nations. C'est-à-dire, je fais allusion à Genèse 48, versets 11 et 12, où Jacob va bénir Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph. Et qu'est-ce qu'il dit, Jacob ? Je l'ai dit l'autre soir, tu deviendras une multitude de nations. Éphraïm, qui veut dire la double onction, va devenir multitude des nations. C'est-à-dire que pour que l'onction de Jean soit libérée, il faut aussi que dans l'onction de Jean, il y a un lien étroit entre les 10 tribus perdues, qu'on appelle la maison d'Éphraïm, ou la maison de Jacob, ou la maison d'Israël. Relisez Osée. Il faut qu'il y ait un rapprochement entre la maison d'Éphraïm, qui représente la multitude des nations, dont nous sommes, d'après l'Écriture, les descendants. Allons vérifier notre arbre généalogique qui date de 2700 ans. C'est impossible. La question n'est pas qu'on soit ou pas de la descendance d'Éphraïm, la question que Éphraïm représente la multitude des nations, qui est appelée à se greffer, à se réaligner avec la maison de Juda. Pendant longtemps, la multitude des nations, ou plus exactement l'Église, a développé la théologie de la substitution. Et c'était une fausse doctrine. Elle s'est prise pour le nouvel Israël, qui a remplacé Israël. Elle s'est repentie de cela. Et maintenant, elle va, à travers la révélation, à travers l'onction de Jean, elle va comprendre qu'elle est appelée à, en quelque sorte, s'aligner. Mais elle peut s'aligner, elle peut se rapprocher de la maison de Juda. Le manque de peau, décidément, tout le monde veut remplacer Israël. La maison de Juda se fait appeler quoi aujourd'hui ? Israël. Eh oui, parce que si vous connaissez un peu votre histoire, Judas n'a jamais été la maison d'Israël, n'a jamais été la maison de Jacob ou d'Éphraïm. C'était le royaume du Sud, avec Benjamin et avec la tribu de Lévi, on est d'accord. Et c'est, comme le dit Osée, c'est la maison de Juda qui va retrouver la terre. Les 10 tribus, c'est le Messie qui les ramènera, qui les rassemblera. Mais il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Dieu est en train de nous, les prémices de la multitude des nations. Dieu est en train de nous inviter, et ça fait partie de l'onction de Jean. Dieu est en train de nous inviter, de nous appeler à rechercher, je dirais, l'interprétation hébraïque des Écritures. Et dans cette année 2016, et ça c'est vrai pour les pays de la francophonie, et c'est cela la révélation de Jean, c'est que nous sommes appelés à nous déconnecter de l'esprit de Constantin. Nous sommes appelés à nous déconnecter. Malheureusement, mon temps est toujours trop court et je finis jamais mes séminaires. Chaque année, ça dure depuis 20 ans, je n'en pleure plus parce que j'ai plus de larmes, ça, ce sujet. Mais j'aurais tellement aimé montrer que les 7 fêtes de l'Éternel sont extrêmement christiques. Et les 7 fêtes de l'Éternel, dans Lévitique 23, chacune des fêtes révèle une étape qui nous conduit à la venue du royaume, mais plus encore, nous montre une caractéristique de Jésus-Christ. La première fête, je vais vous laisser saliver, tant pis. Qu'est-ce qu'elle représente de Christ, la fête de Pâques ? Le sang de l'agneau. Et c'est important parce que, voyez-vous, C'est important de comprendre cela, parce que Constantin, en l'an 330, quand il a christianisé son empire païen, il a refusé les racines juives. Il a imposé des fêtes. Et nous, 1700 ans après, on est toujours avec les fêtes de Constantin. Pourquoi ne nous fêtons pas Pessa ? Constantin a interdit la fête des tabernacles, alors on ne fête plus les tabernacles ? La fête des tabernacles, mais dites, elle a une signification extraordinaire. Il a interdit la fête des trompettes, alors pourquoi l'Église ne célèbre pas l'enlèvement et l'entrée dans la salle des noces ? Il a interdit de visiter, de fréquenter les synagogues, il a interdit les églises de maison, il a interdit le Shabbat. Alors je vous pose la question, est-ce que nous sommes obligés d'être sous le joug de ces lois? Alors vous allez me dire, mais on va judaïser. Mais ne comprenez-vous pas que toutes les Écritures racontent la gloire de Jésus? Ne comprenez-vous pas que Jésus n'est pas venu abroger la loi, mais pour l'accomplir? Ne comprenez-vous pas que les sept fêtes de l'Éternel racontent Jésus? Seulement, il a accompli quatre fêtes, hein, en donnant sa vie à Pâques, en étant enseveli à la fête des pains sans levain, en ressuscitant, pas le jour de la résurrection, le jour de Pâques, il est ressuscité à la fête des prémices, en nous envoyant le Saint-Esprit à Pentecôte. Amen, ça c'est accompli. Et la suivante, il vient chercher son épouse. Et celle d'après, il revient sur terre. Et celle d'après, c'est la gloire des nations qui ira chaque année à Jérusalem pour les tabernacles. Mais chacune de ces fêtes révèle toute la bonté de Dieu, tout le sacrifice de Dieu. Et rappelez-vous une chose que Dieu a révélée aux scientifiques. En début 2015, Dieu a révélé quelque chose de fabuleux, je l'avais dit l'année dernière. Aux scientifiques. Il a révélé aux scientifiques les limites de l'univers. C'est fabuleux. Et les limites de l'univers ont la forme d'une main ouverte. Et que la terre, elle est à la place du clou. C'est-à-dire l'immensité de l'univers raconte le sacrifice de Dieu. Vous imaginez cela ? La grandeur de Dieu ? Certains scientifiques disent, oh non, ça ne ressemble pas tellement à une main, mais ça pourrait ressembler plutôt à une oreille. Ouais, ben c'est très bien. On aurait peut-être intérêt à écouter alors. Que ce soit une main ou une oreille, c'est tellement parlant. Parce que l'oreille appelle la parole de Dieu et la main son sacrifice parce qu'il nous a tant aimés. Amen. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous saisissez dans l'esprit que l'onction de Jean nous amène non seulement à entrer dans une bataille contre la puissance des ténèbres, mais on est condamné à être vainqueur parce qu'il a tout accompli à la croix. Parce que Satan a déjà été publiquement dépouillé. Est-ce que nous comprenons que derrière la révélation prophétique de l'onction de Jean, nous avons une révélation que nous sommes ici dans cette salle les prémices de la multitude des nations. Autrement dit, nous sommes, alors il faudrait le montrer dans la Bible, je l'en ai parlé l'autre soir, quelque part, nous sommes les descendants de la maison d'Éphraïm, des 10 tribus perdues. Même si aujourd'hui Israël, qui est en fait la maison de Juda, cherche les 10 tribus, elle en trouve. Elle a trouvé la tribu de Dan, ce sont les Falachas. Elle a trouvé la tribu de Manassé. Mais Éphraïm qui représentait 60% des tribus, 60% de la population du royaume du Nord, des 10 tribus. C'est intéressant parce qu'on voit que le Seigneur est en train de nous parler. Donc l'année 2016, c'est l'année, ce que j'appelle, de la restitution des héritages. Les héritages sont en train d'être restitués. Mais les héritages sont restitués pour que les pères les transmettent au fils. Amen. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est l'année où, quand tu sondes ta conscience, quand tu recherches le cœur du Père, le Père se laisse trouver. C'est une année où on voit une génération qui arrive un peu de nulle part et qui vient de familles éclatées, défavorisées, des gens qui commencent à exprimer leur soif de Dieu. Hein? Les universités comme Bordeaux, comme Paris, il y a un cri qui est en train de sortir des étudiants. Ils cherchent la vérité. Ils ne la trouvent pas forcément au bon endroit, mais ils cherchent. Et c'est Dieu, en quelque sorte, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais des jeunes gens, des jeunes filles vont révéler la passion de Jésus. Amen. Une génération qui est en train de se lever, et nous, les pères, ceux qui ont un âge, qui font partie de la génération qui est née avec Israël, eh bien, ou les pères ou les mères, nous, eh bien, on doit voir en eux les vainqueurs de demain. On doit voir en eux, on a cette responsabilité de les préparer pour aller devant. On a cette responsabilité et cette joie. Hein? Il y a une chose qui est très importante, c'est une année où, alors ça c'était vrai pendant les 7 dernières années, où les femmes, alors les femmes, les sœurs en Christ, qui ont passé beaucoup de temps ces dernières années dans l'intercession et la prière, qui ont en quelque sorte, elles ont porté dans leur cœur, dans leur esprit, elles ont engrossé, je ne sais pas, je veux dire quand même, eh bien, elles vont commencer à mettre au monde. C'est l'année 2016. Et 2017, encore plus, c'est une année pour les femmes, en quelque sorte, il y a un accouchement qui vient. Et l'accouchement qui vient va laisser en quelque sorte, elle libère une autre génération de femmes qui vont être, elles, des prophétesses, des Jeanne d'Arc. Et c'est ces femmes qui intercèdent. Beaucoup dans les années à venir vont être à la tête d'églises, des petites églises, d'églises de maison, de groupes. Parfois même, elles seront peut-être femmes d'affaires. Elles vont créer des groupes, mais elles seront là comme des bergères. Elles vont libérer l'autorité de Christ. N'oublions pas que la France est étroitement liée. Oui, merci. La France est étroitement liée à quelque chose en rapport avec l'épouse. Et la plupart de ces femmes vont même se lever et vont même être connues au niveau international. Alors je suis désolé pour une partie de l'Église qui pense qu'il faut être reconnu pour exercer un ministère. Parce que ces femmes ne cherchent aucune reconnaissance, mais les œuvres les suivent, les accompagnent. Elles sont très centrées sur... Ce sont des femmes... J'ai envie de dire, ce n'est pas des Amazones, pas du tout. C'est de l'espèce des Déborahs, des Jeanne d'Arc. Ce sont des guerrières. Amen. Et elles atteignent un niveau d'autorité. Certaines ne seront pas forcément ajustées avec le corps du Christ. Mais elles vont y arriver. Parce qu'elles ne peuvent pas se lever sans être liées au corps. Sinon, elles seraient abattues. Mais elles vont se lever. Elles sont en train de se lever. Elles vont avoir comme une sorte de courage, et ça on le voit déjà, de ces femmes anciennement musulmanes ou africaines, dans des temps de guerre, dans des pays de crise, ces femmes vont être les seules bergères du pays dans l'Église. Elles auront même pas seulement une autorité prophétique, mais une autorité apostolique. Comme les veuves en Syrie, c'est exactement ça. Magnifique histoire de ces femmes veuves qui viennent après que les hommes se soient tués et elles viennent vérifier s'il y a des survivants pour les amener à Issa, à Jésus, avant qu'ils ne meurent. Elles sont toutes veuves, elles ont toutes perdu des fils, un mari, un toit, une maison, mais elles vivent ensemble, elles passent nuit et jour dans l'intercession et la prière. Et elles ont amené des dizaines et des dizaines d'imam à Jésus, en Syrie et en Irak. C'est extraordinaire. Et des miracles se font. Elles vont se multiplier. Et elles seront particulièrement là où il y aura les champs de bataille. Elles vont devenir une sorte de... En fait, elles vont devenir une sorte de bouclier spirituel pour permettre à des églises, à des endroits de grande crise, de laisser renaître l'église de Jésus-Christ des cendres d'une nation. Elles vont engendrer des nations comme Geneviève, qui était une martinienne, 100 ans après Martin, a engendré la nation de France. Au milieu de la menace des Huns qui ravageaient tout et qui auraient détruit Lutèce si Geneviève ne s'était pas levée pour amener Lutèce à la repentance et vaincre l'armée des Huns qui n'ont pas pu détruire Lutèce. C'est une année où, alors je l'ai dit, c'est une année des vents secs. Écoutez bien, moi quand je suis sur mon bateau, je l'entends. Vous allez dire, c'est un peu fou, mais moi j'entends le gémissement du vent. Je ne sais pas comment vous dire. Alors vous allez dire, c'est peut-être ma sensibilité prophétique, mais moi j'entends le vent qui gémit. Et quand le vent gémit, c'est un vent qui est sec, mais c'est un vent qui appelle les élus de Dieu. C'est un vent qui exprime la souffrance du Père pour les âmes perdues. Et moi, j'entends ce vent, je l'entends dans la nuit quand je suis dans mon bateau. J'entends quelque chose qui gémit, comme si toute la création était en train de gémir. Mais à travers ce gémissement, c'est comme s'il y avait des anges qui étaient là et qui cherchaient dans la nuit comme dans le jour. Des hommes et des femmes qui se tiennent et qui prient et qui libèrent les proclamations de Dieu, qui libèrent la bénédiction. Et le temps est sec, il ne pleut pas, les hommes vont gémir parce que le vent de Dieu est en train de gémir. Il gémit sa soif des âmes perdues pour les amener au salut. L'année 2016, c'est aussi une magnifique année pour ceux qui témoignent de Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez le cœur du Père qui gémit dans le vent? Est-ce que vous entendez que derrière le gémissement du cœur du Père, le cœur du Père rejoint le gémissement des hommes et des femmes qui ont soif? Oh, je ne sais pas comment vous dire ça. Moi, je l'entends. Je ne peux pas vous dire, mais je sais que dans le vent que j'entends, il y a le Père qui dit, mais où sont mes ouvriers pour le commencer à lever la moisson qui vient. Et c'est pour ça que 2016 est une année où Dieu te arme pour le témoignage. Pas pour dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais c'est une année où tu dois gémir avec le vent. C'est une année, rappelez-vous, une année d'accouchement. Tu vois ? Ça c'est important. C'est une année qui veut apporter une libération. Et ça c'est important de le comprendre. C'est aussi une année où ceux qui ont persévéré longtemps, qui ont prié, vous avez eu des combats, vous avez eu les 7 années passées, nous avons tous été éprouvés dans notre santé, dans notre famille, beaucoup, hein, énormément de gens ont été éprouvés ces 7 années passées. Nous avons toujours été éprouvés dans quelque chose, la famille, la santé, les finances, enfin on a été éprouvés. Eh bien là, ceux qui ont tenu, ceux qui ont été, hein, j'avais dit ça en 2007-2008, nous entrons dans des années d'épreuves, des années où on passe par un émondage. Hein, ça, c'était les années 2008-2009. Mais là, ce sont des années où on passe, c'est plus où on va commencer à récolter notre fidélité. C'est les années où on va commencer à récolter notre fidélité. C'est les années où on va commencer à récolter ce qu'on a semé dans les larmes. Et bien, on commence à vivre la moisson. Amen. Ça, c'est encourageant. Alors, ça peut paraître petit, Mais on commence, on voit les signes. Ceux, par exemple, qui ces 7 années passées ont vécu, par exemple, leur entreprise a fait faillite ou il y a eu des problèmes douloureux, eh bien, soit c'est une... c'est le temps de la reconstruction de la famille. C'est le temps de la reconstruction de l'entreprise. Où là, tu vas enfin commencer à avoir des bénéfices. Ok, d'accord, il y a une crise. Mais là, il y a un choix. Et ça, c'est intéressant. Mais l'année 2016, c'est aussi une année où Dieu te met en garde. C'est une année de mise en garde. C'est-à-dire Dieu va te tester là où, dans la partie de ton âme, de ton cœur, là où ça fait le plus mal. Ouais. Il va te toucher là où ça fait le plus mal pour le mettre en lumière et faire de toi un vainqueur. Tu vois ? C'est aussi une année où Dieu te demande à passer dans 3 étapes, qui est l'étape de l'obéissance. Et quelle est la plus grande obéissance ? Vous allez me dire, la plus grande obéissance, c'est tenir dans la présence de Dieu, ou c'est d'écouter la voix de Dieu. Oui, tout ça, c'est juste. Tout ça, c'est j'ai envie de dire, c'est le quotidien de notre vie en Christ. C'est de chercher sa présence, d'écouter sa voix, écouter sa parole, de la méditer. Laissons ça. Ok. Mais après, quelle est l'obéissance ? L'obéissance qui vient après notre relation avec Dieu, c'est tout simplement d'aimer nos frères. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. La deuxième obéissance, c'est d'être dans une relation d'amour. Mais l'amour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça passe par le pardon. Quand tu aimes quelqu'un avec qui tu t'entends, je vois pas, il n'y a pas de gloire. Mais quand tu aimes quelqu'un qui t'a enquiquiné et qui a pris ta promotion, qui t'a fait une vacherie, etc. Bon, tout ça, on le sait dans notre vie. Quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui t'a humilié. Et rappelez-vous ceci, il y a 2 choses qui mettent en action le pardon. La première chose, c'est la puissance du sang de Jésus. Nous pardonnons comme nous avons été pardonnés. Mais la deuxième chose, c'est la louange. Un vrai pardon, dans le pardon, il y a l'oubli. On a oublié, comme Dieu a oublié. Mais un vrai pardon t'amène à louer celui qui t'a blessé. Non pas le louer pour ce qu'il t'a fait, c'est évident, mais louer Dieu pour ce qu'il est en Dieu, ou ce qu'il peut devenir en lui. Ça, c'est important. Tout pardon se scelle dans la louange. Amen. Le pardon, vous entendez des gens qui disent « Je pardonne, mais !» Il n'y a pas de pardon avec un « mais ». Pardon, mais je retiens quand même le poignard que j'ai derrière le dos. Hein. Et ça, c'est ça. C'est une année d'obéissance. Et donc, c'est une année qui nous amène aussi à... Beaucoup disent on entre dans des niveaux de foi. Ok, mais moi, je vais vous dire, la foi, elle grandit aussi à la mesure de ton humilité. Ce qui est un des obstacles de la foi, c'est le manque d'humilité. Et parce que dans l'humilité, tu as la révélation que tu dépends de Dieu. Et dans la foi, tu as la révélation qu'en dépendant de lui, tu as la victoire. Ok ? Il y a ces 2 choses. C'est-à-dire que oui, tu grandis dans la foi, mais parallèlement, tu diminues dans l'humilité. Et ça, c'est important. Et c'est très lié à l'obéissance et au pardon. Et c'est l'année où tu ne peux plus dire « je ne suis pas prêt ». Ça, c'est embêtant. C'est fini. Tu t'es préparé pendant ces 14 ans de 2001 à 2000. Non, c'est foutu si tu n'es pas prêt. C'est foutu, c'est trop tard. Tu ne peux plus le dire et tu ne pourras plus le dire jusqu'au retour de Jésus. C'est, je veux dire par là, c'est l'année où, les années suivantes évidemment, c'est la même chose, où il n'y a plus de temps dans le temps. Il n'y a plus de temps dans le temps. Mais Dieu donne un temps encore pour se repentir. Vous me suivez ? Il y a encore un temps, mais nous sommes et ça c'est tout le 21e siècle, il n'y a plus de temps dans le temps. Donc tu ne peux plus dire je ne suis pas prêt. Quand tu dis à Dieu je ne suis pas prêt, ça veut dire qu'il faut du temps. Désolé, mon avis, il n'y en a plus. Le seul temps qui t'est donné, c'est celui de te mettre en règle avec Dieu.
Et c'est au travers de cette règle, cette mise en règle avec Dieu, que Dieu t'amène à être prêt. C'est dans l'obéissance que tu seras prêt face aux événements qui arrivent. Et tu dois comprendre cela. Tu ne peux plus dire, oh mais je ne suis pas prêt. Quand tu dis cela, quelque part, tu es hypocrite. Quelque part, tu es hypocrite. Parce que Dieu t'a donné du temps, mais tu ne l'as pas racheté. Et tu ne peux plus réclamer du temps. Le temps, c'est un immense, c'est une énorme, c'est un capital, le temps. Et nous, au fond de Dieu, dans les temps qui viennent, dans ce temps où il n'y a plus le temps, nous devons, en quelque sorte, libérer la gloire. Il y a une guerre entre le temps et la gloire. On doit le comprendre. Et dans cette guerre où il n'y a plus de temps, c'est parce qu'il n'y a plus de temps que la gloire est libérée. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Je l'avais déjà dit. C'est important de comprendre cela. Parce que c'est la seule chose. Et la gloire, ben écoutez, rappelez-vous mon requin. Enfin, mon requin, je cultive pas, je n'élève pas des requins, c'est évident. Mais il n'y avait pas de temps, je ne pouvais pas dire, attends Seigneur, je ne peux pas le rencontrer, je ne suis pas prêt. Je n'étais pas prêt. On n'est jamais prêt quand on rencontre un requin. On n'est jamais prêt. Attends Seigneur, je vais affronter une épreuve épouvantable. Et Dieu dit, mais attends, je t'ai équipé pour affronter tout ce qui vient. C'est ça qu'il faut que nous comprenions aujourd'hui. Et si nous n'avons pas été équipés pour affronter tout ce qui vient, c'est parce que nous avons méprisé l'équipement. Autrement dit, nous n'avons pas racheté le temps. C'est dans le temps que Dieu t'a équipé ces 14 dernières années. Et aujourd'hui, tu ne peux plus dire « je ne suis pas prêt ». Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps. Et tu dois être dans sa présence. Et il va y avoir comme une exigence de Dieu aujourd'hui. Une exigence de Dieu, et ça je l'ai profondément ressenti quand j'ai rencontré ce requin. Où tu es prêt d'entrer dans la présence de Dieu, de libérer son autorité, ou bien tu te feras dévorer. Je veux dire, il n'y a plus d'alternative aujourd'hui. Tu restes sur le carreau. Ou tu prends sérieusement la gravité que nous vivons aujourd'hui, les temps que nous vivons aujourd'hui, alors tu es en marche pour être vainqueur. Ou bien alors, tu ne pourras pas être, tu feras partie de ceux qui se disent « je ne suis pas prêt ». Et ça, pour les temps qui viennent, waouh, ça va être difficile à dire devant Dieu, n'est-ce pas? Parce que, dans la réalité, personne ne peut se trouver prêt pour ce qui va arriver. Personne. La seule chose qui peut réellement être la preuve, le témoignage que tu es prêt à affronter, c'est une seule chose. Ton obéissance, pour ne pas dire ta consécration à Dieu. Il n'y a que ça. Et ça, il n'y a pas d'autre choix. Hein? C'est ton obéissance, ta consécration à Dieu. Ça, tu ne peux pas. Et une autre chose qui est très, très, très importante dans les années à venir. Alors, je vais parler des pères et des mères qui ont persévéré. Hein. Les pères, les mères spirituelles, oui, ils se lèvent. C'est une année où on a déjà eu, ces 7 dernières années, véritablement, une pluie de songes et de visions. C'est impressionnant. Mais alors, à partir de Pentecôte 2016, les songes et les visions vont être tellement nombreux que il y a des choses qu'on comprenait pas vraiment, ça va nous être directement révélé dans des songes. Et y aura aussi à travers les songes une obéissance, des avertissements. Que on peut véritablement dire que les songes qui vont arriver à partir de Pentecôte 2016, ça va être tellement fort que à un moment, on va commencer à hésiter à aller le dimanche au culte à une réunion de peur que si on n'a pas réglé certains péchés cachés, ça soit révélé par un de nos frères qui aura associé un songe. C'est-à-dire que les songes, à partir de Pentecôte 2016, Pentecôte 2017, ça va être encore plus fort. Je veux dire, c'est une accélération. Vont être telles que la crainte de Dieu va saisir le peuple de Dieu. La crainte de Dieu. Et là, on ne pourra pas dire, je ne suis pas prêt. La crainte de Dieu. Je vous tant qu'à faire, on a tous des combats. On a peut-être gagné certaines batailles, mais on a toujours besoin d'être vigilant, hein, n'est-ce pas? Et je voudrais vous dire vraiment que s'il y a quelque chose à dire sur Pentecôte 2017, si la montagne de Sion commence à se lever à Pentecôte 2015, c'est que la première chose pour s'approcher, relisez Hébreux 12, la première chose, c'est notre consécration et notre sanctification. Ça veut dire que tu ne badines pas avec Dieu. Tu te trouves devant Dieu et tu ne vas pas badiner. Le signe que Dieu va donner, c'est comme s'il y avait une crainte de Dieu qui va s'emparer. Et Dieu va utiliser les songes et les visions pour nous faire prendre conscience que ce que nous cachons sera dévoilé. Waouh, c'est fort ça. C'est comme si on va... C'est pour ça que fin 2000, à partir de Pentecôte, c'est un mouvement de repentance qui vient. Sainteté. Si je dois dire quelque chose sur Pentecôte 2016, de Pentecôte 2017, c'est un mot. Saint, saint, saint à l'Éternel. Si la montagne de Sion se lève, c'est le mot saint à l'Éternel qui se lève. C'est le mot saint à l'Éternel. C'est fort ça. Donc les songes et les visions vont devoir être gérés. Parfois, ça sera difficile. Et il faudra les gérer et il faudra toute la sagesse de Dieu aussi, parfois pour les interpréter. Amen. Ça va amener un nouveau niveau, une sainte crainte de Dieu, un nouveau palier de foi, mais aussi les songes et les visions vont devenir une extraordinaire dynamique de créativité. Pas encore, je ne le sens pas encore. Mais ça, on va être sur la... Dieu va nous montrer des choses avec une telle précision qu'on va se rendre compte, c'est comme si l'Église sortait de sa torpeur au bout de 70 ans. Je vous fais allusion au message que j'ai donné l'année dernière, il y a 2 ans, sur les 70 ans. Au bout de 70 ans, c'est-à-dire à partir de 2016, Dieu lève son gouvernement apostolique. À cause de des nations qui, en quelque sorte, condamnaient la maison de Juda par ce pacte que les nations ont fait avec Hitler. Alors ça, c'est... Et là, on sort de ça. Là, Dieu restaure son gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour restaurer son gouvernement, il faut se tenir dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur de Dieu. C'est sérieux, c'est grave, mes amis. On ne peut plus... J'ai envie de dire, Dieu va nous... Il y a comme un vin nouveau qui vient, mais on ne peut plus plaisanter. Le vin nouveau, un nouveau vin va venir au milieu de nous. Gloire à Dieu. Mais c'est ça. Alléluia. Amen, amen. Voilà, j'ai donné les quelques clés qui sont encouragées. Ah oui, j'ai oublié quelque chose aussi. 2016, c'est tout l'Occident, ça. 2016, c'est une année où Dieu va en quelque... Mais je crois que l'avoir dit... Est-ce que tu as bâti ta maison sur le roc? Est-ce que tu as bâti ta maison sur le roc? C'est-à-dire que non seulement Dieu nous touche dans les points sensibles, mais Dieu nous montre qu'est-ce que c'est bâtir sa maison sur le roc? Le roc, c'est Jésus. Tu t'attends à lui. Alors attends-toi aussi à des miracles. Parce que c'est à partir de Pentecôte 2016, la sainteté de Dieu vient avec les miracles et les prodiges. Il y a une succession de miracles. Et le premier miracle que nous allons voir au milieu de nous, ce sont des miracles de guérison physique. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'être restauré. Et on peut dire que vraiment, il va y avoir une vague de guérison. Priez pour les malades, vous allez voir des miracles. Priez. Et surtout, apprenez une chose, qu'on devienne des balles de caoutchouc, qu'on sache rebondir dans les événements et les situations. Amen. Alléluia. Je voulais donner un petit enseignement sur... Il y a un enseignement que j'aime beaucoup donner, qui je l'ai énormément donné, c'était « Cessons de rester des bons chrétiens. » Cessons de rester des bons chrétiens. On ne peut plus se contenter d'être un bon chrétien. Devenons de vrais disciples. Le bon chrétien, c'est celui qui est sauvé, qui aime le Seigneur, qui donne sa dîme, qui appartient à une assemblée, tout ça c'est bon. C'est un bon chrétien, gloire à Dieu. Il est sauvé, les anges l'attendent quand ce sera son heure, ok? Il rejoint le Seigneur, mais le vrai disciple, c'est celui qui impacte son territoire. Le vrai disciple, il a trois choses dans sa vie. Dieu veut lui donner les clés du royaume pour ouvrir les portes. Car il y a des portes à ouvrir dans le territoire que Dieu veut lui donner. Le vrai disciple, il doit restaurer le territoire sous l'alliance du sang de l'agneau. Le vrai disciple doit poser des autels. C'est ça, un vrai disciple. Et il y a sept étapes pour devenir un vrai disciple. Et moi, j'aime beaucoup... Où est ma Bible ? Bon, c'est quand même pas l'enlèvement des Bibles. Le vrai disciple, il doit passer par sept étapes. Et oh que j'aime ce passage. Je le lis énormément. Ça a été une révélation et une joie. C'est dans la deuxième épître de Pierre. C'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 5. Et ça, c'est un passage qui m'a énormément... À cause de cela, faites tous vos efforts. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Il y a comme un sacrifice. Faites pour joindre à votre foi la vertu. Non. Ce mot n'a plus le même sens. C'est l'excellence. C'est l'excellence. C'est-à-dire ta foi doit devenir le détonateur de ce que tu peux offrir de mieux en Dieu. Et qu'est-ce que c'est l'excellence ? C'est rechercher profondément et sincèrement la présence de Dieu. C'est en cela que l'excellence est une vertu. L'excellence. Et parce que l'excellence de ta foi, c'est l'intimité avec Dieu. C'est ça qui libère la vertu. Et de l'intimité avec Dieu, ou l'excellence, l'excellence, ce n'est pas seulement l'intimité avec Dieu, c'est que tu lis la parole, tu vas aligner ta vie avec la parole, tu vas rechercher l'excellence dans ta vie, à partir de ta foi. La connaissance, c'est marqué la science, je préfère le mot connaissance, la connaissance de Dieu. Quand tu entres dans l'excellence, c'est-à-dire tout ce que la foi t'appelle à vivre et à faire, c'est-à-dire l'obéissance, eh bien alors, au travers de ton excellence, eh bien, tu entres dans la connaissance de Dieu. Tu as la révélation de Dieu. Et à la connaissance de Dieu vient quoi ? La tempérance. La tempérance, c'est la neuvième caractéristique des neuf, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. La tempérance. Le neuvième. Parce que ça commence par l'amour, agapé, et ça se termine avec le contrôle de soi. Et la connaissance de Dieu libère en toi les neuf caractéristiques du fruit d'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la connaissance de Dieu te restitue dans l'héritage du Fils que tu es, dans la maison du Père. Et regarde là, la tempérance, la patience... Parce que toute la question de ma vie en Christ, c'est la pérennité, c'est la continuité de ce que je vis avec Dieu. Et les épreuves de la vie sont là pour rendre, pour m'apprendre la patience. Amen. La patience, moi j'aime bien, je préfère l'endurance, mais c'est la même chose. C'est le même. Et de l'endurance, voire la piété. C'est-à-dire l'épreuve de la vie dans ta foi développe la patience, mais la patience développe la piété. Qu'est-ce qui est au cœur de la piété ? L'autorité de Christ. C'est l'autorité de Christ. L'autorité de Christ, c'est l'expression de ta communion avec le Père et de ta relation avec les frères. Tu libères l'autorité. Tu es passé par le fruit de l'esprit, tu es passé par la tempérance, bien sûr, donc le fruit de l'esprit, tu es passé par la patience. La patience, elle porte comme fruit la piété, qui est l'autorité. Et à ce moment-là, tu peux entrer dans la communion fraternelle. Regarde. Et qu'est-ce que la communion fraternelle ? Ou l'amour fraternel, je ne sais pas. Ici, l'amour fraternel. Qu'est-ce que c'est ? L'amour fraternel, elle a trois caractéristiques. La capacité de libérer ton témoignage en Christ. C'est 1 Jean 1:7. La capacité de devenir, de présenter Christ au travers de ta vie à tes frères. C'est le premier niveau. Ça donne un nouveau regard sur tes frères et sur le corps du Christ. La deuxième dimension de l'amour fraternel, parce que derrière le témoignage, c'est l'amour du Père que tu apportes. C'est le deuxième niveau, c'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, dans le deuxième niveau, tu mets en action, tu libères le ministère du Saint-Esprit, de Corinthiens 3:8. C'est-à-dire, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est de libérer dans ta vie le ministère de la réconciliation. Alors tu vas me dire, mais c'est dans ton témoignage. Tout à fait raison. Mais à ce moment-là, ce ministère de la réconciliation t'amène à servir tes frères. Et le troisième niveau de l'amour fraternel, c'est de tout simplement donner ta vie. C'est tout simplement de manifester la paternité de Dieu, de donner ta vie. Amen. Comme Christ a donné sa vie pour ses bien-aimés. Et donner sa vie, ça veut dire quoi ? Tu commences à donner ta vie quand tu donnes ton temps. Quand tu donnes ton temps. Je dis toujours, je sais que cette définition paraît un petit peu étrange, mais je dis toujours que l'Église, ça doit être un ramassis de toute la poubelle humaine du monde. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Mais cette poubelle humaine, elle doit passer par le reloucage de la puissance de la croix et du sang de Jésus. C'est ça l'Église. Ceux qui rêvent de l'Église sont complètement déconnectés, complètement désincarnés. Non, tu ne dois pas rêver. Tu dois penser, croire que les foutus de la terre, les violents, la poubelle, quoi, elle vient. Et là, quand tu as l'amour fraternel dans ton cœur, eh bien, tu donnes ta vie pour cette Église de pourris. Qui, par ton témoignage, par ton service, tu permets à tes frères de les conduire à la sous la puissance du sang de Jésus. Amen. C'est la mort à soi-même, on est d'accord. Mais ça, pour se flanquer des trous dans les mains et les pieds, on est doué en France. Et regardez, l'amour fraternel conduit à quoi ? Ah, alors moi j'ai la traduction de la charité. Non, c'est l'agapé. C'est quand... dans tout ce que tu as vécu dans ta relation avec Dieu, puis au travers du corps, alors Dieu peut te donner les nations en héritage. Et c'est à travers l'agapé. L'agapé, c'est quoi ? C'est de donner sa vie pour le pays. Se donner sa vie pour là où tu vis, tu donnes ta vie. Amen. Comme Dieu a donné sa vie à travers son Fils. Amen. Eh bien, 1 Pierre 2, 5 à 9, c'est profondément un texte qui doit nous interpeller. Oui, nous avons besoin de nous déconstantiniser. Nous avons besoin de libérer, je dirais, notre identité hébraïque à travers une nouvelle lecture de la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin de nos frères de messianique, de la maison de Judas, pour nous donner l'interprétation hébraïque des Écritures. Mais pourquoi cela? Parce que cela fait partie de l'onction de Jean. Ça fait partie. Rappelez-vous, qu'est-ce qui est à la base de l'onction de Jean? C'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et qui a été complètement scellée à la croix. Amen. C'est cela. Et tu te rappelles les trois clauses, les trois promesses de Dieu à Abraham. Une postérité nombreuse, l'héritage de la terre d'Israël à perpétuité et une multitude de peuples. Amen. Alléluia. L'onction de Jean révèle le cœur du Père pour libérer le cœur de l'épouse dans une bataille finale qui nous donne la victoire pour revenir à l'alliance de Dieu avec Abraham. Amen. Et pour nous raccorder à la maison de Judas. Alléluia. Prions. On va entrer dans la... Seigneur, nous sommes dans une grande année. Nous sommes dans une grande année. Nous sommes dans une année où Dieu nous dit, je t'ai préparé toutes ces années. Je t'ai préparé. Et si tu es là après toutes ces années, si tu es ici, c'est parce que déjà, tu as déjà gagné une bataille. Mais il y a encore des batailles à gagner pour parvenir à la victoire de la guerre. Merci Seigneur pour ces temps extraordinaires que nous vivons, où les pères et les mères n'ont plus le temps de vieillir. Ça, c'est pas mal. Et où la jeune génération vient, il y a comme une accélération de la génération qui vient pour recevoir l'héritage des pères et des mères. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Il n'y a plus de temps au temps pour libérer ta gloire. Alléluia. Seigneur, la question n'est pas de savoir si je suis prêt. La question est de savoir si je demeure en toi. Alléluia. Merci Seigneur de libérer les songes et les visions. Merci Seigneur de libérer cette sainte crainte de toi. Amen. Merci Seigneur de, non pas qu'au fond de nous-mêmes, bien au chaud, ici, dans l'église Josué, on se sente prêt. Parce que quelque part, nous le savons bien, vous et moi, le sommes-nous vraiment? Mais cette question-là, désormais, Seigneur, elle ne nous regarde plus. Que les requins ou les loups, que les tempêtes, que les batailles navales soient autour de nous, rien ne changera chose. Nous demeurons dans sa présence. Et Seigneur, tu nous libères pour devenir ta lumière dans le monde. Tu nous libères, Seigneur. Alléluia. Tu nous as frappés, mais maintenant tu nous guéris. Alléluia. Alléluia. L'onction. Seigneur, je proclame l'onction de Jean au milieu de mes frères. Cette onction qui révèle le cœur du Père. Mais cette onction qui me positionne en guerrier pour devenir vainqueur. Cette onction qui me révèle que Seigneur, tu vas accomplir ce que tu as promis à Abraham. Alléluia. Tu vas rassembler la multitude des nations avec la maison de Judas. Oh, il y a encore des repentances. Tu vas nous libérer. Le jubilé veut dire libération. Tu vas nous libérer. C'est un jubilé pour Jérusalem, oui, et c'est un jubilé pour l'Église des Nations. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est au cœur du jubilé? C'est tout simplement se déconstantiniser. C'est se libérer de l'esprit d'Augustin. Parce que dans un jubilé, s'il y a des pharaons d'un côté, avec son armée, il y a un peuple qui est libéré. Parce que derrière le mot jubilé, il y a la joie de la libération. Amen. Alléluia. Il y a la joie de la libération. Seigneur, tu me libères. Tu me libères de mon héritage païen ou grec. Où le peuple des nations se hébraïse. Je n'ai pas dit judaïse. Se hébraïse. Revient à la pensée hébraïque de la parole de Dieu. Demain, je crois que je vais donner les sept caractéristiques christiques des sept fêtes de l'Éternel qu'on ne peut pas retrouver dans le calendrier grégorien des fêtes chrétiennes. Et croyez-moi, Dieu va précipiter les choses. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les nations occidentales, surtout, beaucoup de nations vont commencer à quitter les fêtes chrétiennes. Et beaucoup vont dire, oh c'est terrible, on se déchristianise. Moi je vais vous dire, c'est une merveilleuse opportunité de se soi-disant déchristianiser pour revenir aux fêtes de l'Éternel. Ouais. Et je vais vous dire, la France en premier va commencer petit à petit à supprimer les fêtes constantiniennes. On n'a qu'à les remplacer par les fêtes hébraïques. Bibliques. Waouh ! Pas si mal que ça. Dieu va nous donner un coup de pouce. Et ceux qui se croient être nos adversaires, une fois de plus, vont nous rendre service. Alléluia. Oh que oui. Pas dans tous les domaines, on est d'accord. Mais dans certains domaines, ils nous rendent service. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. L'onction. Est-ce que je peux avoir un peu de musique, s'il vous plaît? L'onction cool. Seigneur, je te bénis. L'onction.